Alors, je vous lis ici l'extraordinaire récit de Élie, qui arrive ici à l'Horeb, et vous trouvez ça dans le premier livre des Rois, vers le chapitre 19. Vous vous rappelez dans quel contexte ça se passe? Élie a provoqué... Élie est en fuite. Jézabel entretenait des prêtres de Baal à la cour du royaume du Nord. Alors, Élie a provoqué un choix au sacrifice du Carmel, jusqu'à quand allez-vous clocher les deux côtés? Et puis alors... les prêtres de Baal sont liquidés, et puis alors il eut peur. Dans l'hébreu, il dit simplement il vit. Vayar, vayira. Il y a une petite correction comme ça. Comment est-ce que Élie peut avoir peur? Il suffit de changer une voyelle pour qu'on évite de dire qu'il a eu peur. La Bible de Jérusalem dit il a eu peur. Bon, très bien, on ne va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, à sa place, on aurait certainement eu peur. Il se leva et partit pour sauver sa peau. Il arriva à Beersheba, où on est passé l'autre jour, qui est à Juda. Il laissa là son serviteur pour lui. Il marcha dans le désert un jour de chemin et il alla s'asseoir sous un genêt. Vous avez des difficultés de trouver de l'ombre. Un genêt, ça ne donne pas beaucoup. Et il souhaita de mourir. Et il dit, c'en est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quand on est fatigué dans le désert? Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. On est vraiment marre. L'ange de Dieu revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là, il entra dans la grotte, et il y resta pour la nuit. Et voici que la parole de Dieu lui fut adressée, lui disant, « Que fais-tu ici, Élie ?» Répondit, « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth. Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont abattu tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il lui fut dit, vous sentez la discrétion ici du langage, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Dieu. » Et voici que Dieu passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Dieu, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Et dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors dans tous les groupes, on a du mal à obtenir le silence. Il y en a qui sont venus faire une retraite. Moi, je déteste faire des règlements. On appartient à un ordre, Saint-Dominique, pas y gratter les règlements quand on prétendait les imposer sous forme de péché. Il voulait qu'on obéisse comme amoureux de la beauté spirituelle, pas comme des esclaves sous la loi. Alors, j'évite autant que possible de faire des règlements sur le silence, mais faire l'expérience du silence. Alors, quand on arrive à ce passage, qu'on est tous rassemblés, l'en face de Snidec, dans la montagne, après avoir lu ses récits, après avoir invoqué Élie, après avoir constaté que Dieu se révèle souvent dans un souffle doux et léger, et alors on se tient en silence, on fait une expérience du silence. Et souvent, cette expérience du silence est plus efficace, pas que tous les rappels à l'ordre, pour donner aux gens le goût du silence sans lequel il n'y a pas de méditation de la parole de Dieu. Et alors on se tient en silence, et que fais-tu ici, toi? Tant que fais-tu ici, Élie? On se connaît chacun par son nom. Après la réunion qu'on a faite, on est inexcusable de ne pas se connaître au moins les prénoms les uns des autres. Alors, que fais-tu ici, Élie? Et on reste en silence devant cette interpellation. Que chacun retrouve son rapport personnel, vertical, avec Dieu. Et les relations au plan horizontal, les partages, comme on dit, ne feront que s'en améliorer.
Et c'est pour ça que c'est un lieu béni ici. Quand on y arrive, c'est vraiment...
Et après ça, on pourrait peut-être aller se mettre un peu sur le plateau, là, et puis regarder la lumière du soleil couchant, et c'est là qu'on pourrait parler de la demeure, et puis, tu vois, on aurait sous les yeux le parcours qu'on fait d'habitude vers les colonnes d'Amram. L'embêtant, c'est les colonnes d'Amram, c'est qu'on ne peut pas amener la voiture, et là, c'est dommage. Alors, vous irez les voir, moi, je connais ça par cœur, vous revenez, et puis je fais le topo, là. Oui.
À cause du barrage qu'ils ont fait?
Oui, oui, oui. Oh, ils ont raison. Voilà, habituellement, on termine cette journée, le mercredi, mais disons plutôt le quatrième jour, par l'Eucharistie. Et on retrouve une fois de plus cette étonnante, ce thème fondamental qu'on trouve jour après jour, de voir celui qui nous voit. Le thème fondamental de tout, ça m'apparaît de plus en plus. Le puits de la Hairoi, Moria, hier, depuis 60 ans, on vous rappelait encore, Moïse qui fait un détour pour voir cette vision, et puis Dieu qui voit, Moïse fait un détour pour voir, et puis Dieu qui l'interpelle. On va voir ça ici encore une fois.